Chapitre 46. Le grand voilier va déjà repartir. Ses voiles blanches s'agitent comme des mouchoirs. Nous reviendrons, promettent en chœur les cinq membres du club 612. Avec un plus grand yacht, promet Oko, qui peine à coincer ses longues jambes entre les cordages du vieux gréement. Avec plus d'alcool, promet Moïsès, qui inspecte néanmoins les cambuses à la recherche du moindre litre de rhum. « Avec des hommes plus jeunes !» promet Swan, en serrant Hannibal dans ses bras, tout en dévorant du regard Stello, enfoncé dans l'eau jusqu'aux pectoraux. « Avec un drapeau à planter sur la plage !» promet Izar. « Un palais à bâtir, une utopie à construire !»« Dépêchez-vous !» se contente de conseiller Oshi, en allumant les feux de navigation. « Il va bientôt faire nuit !» Le vieux gardien de phare n'est resté que quelques heures sur l'atoll, le temps que les premières étoiles apparaissent dans le ciel encore clair. Le temps d'une courte promenade jusqu'à la plage voisine, avec Oko, Swan, Moïsès, Izar. Cinq amis, enfin réunis. Enfin silencieux. Le temps d'un long recueillement devant la stèle de granit. Antoine de Saint-Exupéry. 1900-1994. Le temps de recueillir des souvenirs, le temps de se convaincre que ce qui est fané va refleurir, que rien n'est jamais enterré, tout n'est qu'enraciné. Le vent se lève. Les voiles se tendent et les cœurs se serrent. Le béret à pompons de Marie-Swan s'envole. Hannibal aboie une dernière fois. Ils sont partis. L'île n'est plus qu'un confetti. Nous ne sommes plus que trois. À l'autre bout de la terre, le soleil entame sa lente descente vers l'autre hémisphère. Nous nous asseyons sur le banc, l'un des rares fragments d'île avec la cabane qui n'est pas encore recouvert par la mer.
Alors, quelle est-elle ? Cette vraie résolution,
demande Andy qui, de sa vie, n'a jamais renoncé à une question une fois qu'elle l'a posée.
Cette véritable et si importante morale du petit prince.
Êtes-vous prête à m'écouter sans m'interrompre?
Demande Stello.
La promesse de Solem. Je serai plus silencieuse encore que frère Antoine réfugié ici.
Stello sourit.
D'accord. Ce sera peut-être un peu long. Pour tous les lecteurs, la morale du petit prince, c'est l'éloge de la responsabilité. Tu es responsable de ce que tu as apprivoisé.
On a déjà parlé de ça,
le coupège. Moi, je n'ai rien promis.
Mais on ne sait pas qui apprivoise qui. Là n'est pas la question,
bougonne le beau Stello, visiblement agacé d'avoir été interrompu.
Beaucoup considèrent le petit prince comme un conte naïf, mièvre, édifiant, moralisateur. Tu es responsable de ce que tu apprivoises. Ta femme, tes enfants, ton chien, ta voisine, tes collègues, tes compatriotes, la terre entière. Une morale de Boy Scout qui insupporte les cyniques. Ils n'ont rien compris. La philosophie du petit prince tient en une phrase. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux.
Quel baratin! À nouveau j'interviens.
Vraiment? Vous êtes certain? On ne voit bien qu'avec le cœur. Mon Dieu, quelle provocation! Tiens, une idée. On devrait écrire un truc aussi dérangeant sur des t-shirts ou des tasses à café. Les cyniques vont adorer.
Ma réaction amuse Stello.
C'est parce qu'on fait un immense contresens. Que signifie « l'essentiel est invisible pour les yeux », selon vous?
Facile. Voir la beauté cachée des choses. Par exemple, qu'une fille, ou un garçon pas très joli, mais qui est beau à l'intérieur, mérite d'être aimé comme les autres.
Bien entendu, confirme Stello. C'est le premier niveau d'interprétation. Et ça explique le succès de la formule. Sauf que franchement, vous trouvez que cela ressemble à Saint-Exupéry? lui qui n'aimait et ne collectionnait que les très belles femmes? Il y a forcément un autre sens.
La mère recouvre déjà les pieds du banc et les chevilles d'Andy. Allez-y.
D'accord. Mais la démonstration demande un peu d'attention et un peu de temps. Alors cette fois, ne m'interrompez pas. L'essentiel est invisible pour les yeux. En réalité, signifie que l'essentiel n'existe que par le vide, le creux, l'absence, le souvenir. L'essentiel est toujours manquant. L'être aimé, ou même l'objet aimé, est à la fois possédé et perdu. C'est son absence qui lui donne une valeur. Le souvenir du blond des blés, l'attente d'un coucher de soleil, la soif de l'eau d'une fontaine, le temps pour y marcher, la nostalgie d'une rose pourtant si capricieuse, une étoile trop lointaine, ou un ami qui disparaît. L'essentiel n'existe que parce qu'il n'est pas encore là et attendu, ou qu'il n'est plus là, regretté, espéré. C'est seulement à travers cette absence que pour Saint-Exupéry, l'univers fait sens. Sinon, tout est futile, immédiat, acheté, possédé, jeté. Accepter l'absence, le départ, la disparition, la mort, c'est comprendre la valeur des choses et la respecter. C'est un sacrifice qui n'est en rien douloureux, puisque c'est grâce à lui que tout prend une importance. Rien à voir avec un dogme religieux. Saint-Exupéry ne nous demande pas de nous sacrifier pour les autres, et encore moins d'accepter le sacrifice ici-bas pour espérer un meilleur au-delà. Saint-Exupéry n'était pas croyant. Les interprétations christiques du Petit Prince n'ont aucun sens. Ce sacrifice est laïque. Et il remplit l'univers de la somme des manques, des soifs, des faims. L'univers n'est plus possession, il n'est que désir et souvenir. L'esprit est plus fort que le réel. Le réel, d'ailleurs, existe-t-il en dehors de nos esprits? Le réel n'existe qu'à proportion qu'il manque. Les étoiles sont belles à cause d'une fleur qu'on ne voit pas. À la fin du conte, le petit prince disparaît de son plein gré, puis Saint-Exupéry lui aussi de son plein gré. Et par leur disparition, tout est rendu aux autres. L'amour, les blés, les étoiles, le désert, la peur de mourir, les rires. L'autre en fera ce qu'il veut. Les vénérer, les détester, les enjoliver, les oublier. Le ciel avec l'étoile du petit prince devient à la fois le plus beau et le plus triste paysage du monde. Et tout tient dans cette inquiétude. Car ainsi, tout homme devient responsable de tous. Elle est là la morale de la responsabilité de Saint-Exupéry, celle d'être conscient que nous portons cette responsabilité dans chacun de nos gestes, même le plus banal, celui du jardinier, de l'allumeur de réverbère, de l'aviateur, mais qu'en même temps, ces gestes ne sont que néants, y retournent sitôt effectués, qu'ils n'existent que dans l'espoir qu'ils suscitent ou dans la trace qu'ils laissent sur les autres. Ainsi, tous responsables de tous, mais dans cette conscience pathétique que le néant est la condition de notre liberté. Que sinon, nous ne serions que des étoiles n'agissant que pour nous-mêmes ou que des saints soucieux de n'agir que pour les autres. L'essentiel est invisible pour les yeux, c'est notre responsabilité selon Saint-Exupéry. Le vide laissé, c'est notre liberté. Un long silence conclut l'exposé. Impressionnant. Convaincant, dois-je avouer. Brillant, ajoute Andy, rompant sa promesse de solemne. Mais l'essentiel n'est pas encore là, poursuit Stello. Je ne vous ai encore rien dit de votre enquête. La résolution. La double clé de ce double meurtre. Andy, à nouveau muette, écoute bouche bée. Quand Saint-Exupéry écrit Le Petit Prince, puis met en scène sa propre disparition, que fait-il ? il se sacrifie pour qu'en disparaissant de son manque, de son absence, du vide qu'il laisse, de la légende qu'il crée et qui enjolive les faits, naisse le petit prince, son double de papier, qu'il grandisse à mesure que lui rapetisse. En quelque sorte, c'est le petit prince qui a tué Saint-Exupéry. Ou plus exactement, Saint-Exupéry s'est effacé pour que vive le petit prince. Andy sort sa page blanche et écrit. C'est le petit prince qui a tué Saint-Exupéry.
Stello s'est levé, les deux pieds dans la mer, ses bras battent comme des moulins à eau.
Le petit prince aurait-il connu un tel destin si Saint-Exupéry n'était pas mort mystérieusement, s'il n'avait pas été édité comme l'œuvre posthume d'un héros légendaire? Sans doute pas. Il n'aurait été qu'un livre banal, pas le plus lu du monde. Il fallait que Saint-Exupéry se sacrifie, disparaisse, pour que le petit prince délivre son message au monde. Ainsi, Saint-Exupéry peut vivre une vie monastique sur son île et rester présent dans les cœurs, dans les esprits, par la grâce de son livre. Par sa disparition, Saint-Exupéry applique sa morale de façon magistrale. Comprenez-vous? Il réalise le rêve de chacun. Fuir. Tout quitter. Être seul au monde et continuer d'exister pour chacun d'entre nous à travers sa pensée, en ayant écrit le roman le plus lu de toute l'histoire de l'humanité.
Andy est resté le stylo en l'air. Stello la questionne du regard, auréolé, fier.
Alors, insiste-t-il, qu'en pensez-vous?
Sûr de lui. Sa démonstration est en béton.
Tout le contraire de vous,
balance Andy. Stello en reste à son tour bouche bée.
J'en pense, explose d'un coup ma petite renarde rousse, que Saint-Exupéry s'est comporté d'une manière amorale de façon magistrale, qu'il n'a été qu'un égoïste n'agissant que pour lui-même, tout en se faisant passer aux yeux de tous pour un saint soucieux de chaque être vivant habitant cette terre. Et la souffrance de ses amis, de ses proches, de ses roses, de sa rose surtout. Et Consuelo? A-t-il pensé une seconde à Consuelo?
Et mon petit renard, si fragile, s'effondre en sanglots.